RFI, il est 14h10 à Paris, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Pauline Glaise. Bonjour Pauline.
Bonjour Chantal, bonjour à tous. Cette édition sera largement consacrée au Venezuela. La date de la présidentielle a été annoncée. Le scrutin sera finalement organisé le 22 avril prochain. L'annonce en a été faite dans la foulée de l'échec des négociations entre le gouvernement et l'opposition. On y revient dans un instant dans la revue de presse. Des dizaines de milliers de Vénézuéliens quittent le pays pour échapper aux effets de la crise. L'une des principales destinations, c'est la Colombie voisine. Alors l'Assemblée nationale vénézuélienne demande la création d'un couloir humanitaire à la frontière et des députés d'opposition devrait rencontrer le président colombien aujourd'hui. Vous entendrez l'une d'entre elles, Gaby Arellano, a répondu aux questions de Romain Lemaresquier. Et puis nous aurons rendez-vous, comme tous les jeudis, avec France Duval du Nouvelliste. On parlera évidemment du carnaval de Port-au-Prince.
Et le jour de hoy, nous avons déjà décidé les élections présidentielles pour le 22 avril 2018.
Par ces mots, Tibisay Lucena, la présidente du Conseil national électoral du Venezuela, a annoncé la date de la prochaine élection présidentielle. Le scrutin se tiendra donc le 22 avril. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Cette annonce est intervenue quelques heures seulement après l'échec des pourparlers entre le gouvernement et l'opposition.
Absolument. En une, le journal 2001 résume en quelques mots aujourd'hui le contexte dans lequel les Vénézuéliens se réveillent ce matin. Le dialogue est mort et l'élection présidentielle se tiendra dans 73 jours.
Alors, est-ce que l'on sait au moins pourquoi les pourparlers entre gouvernement et opposition ont échoué?
Oui, le Correo del Caroni consacre en tout cas un très long article au déroulement de la journée d'hier en République dominicaine. Selon les déclarations de Julio Borges à la tête de la délégation de l'opposition, les négociateurs du gouvernement ont refusé de recevoir les dernières modifications apportées par l'opposition au texte de l'accord final. Ces exigences de l'opposition concernaient toujours les garanties, selon elles nécessaires, pour que la présidentielle puisse se tenir de manière libre et transparente. Y figurait notamment l'admission des deux figures emblématiques de l'opposition, Enrique Capriles et Leopoldo López, comme candidats au scrutin, mais aussi la question des observateurs internationaux et des instances internationales capables de prendre en charge d'éventuelles contestations.
Et la délégation gouvernementale, elle, que dit-elle?
Elle accuse l'opposition d'avoir subi des pressions américaines pour ne pas signer l'accord, rapporte Ultimas Noticias. Toujours est-il qu'après l'interruption de la séance de négociation à Saint-Domingue, la MUD a appelé le gouvernement à ne pas annoncer de manière unilatérale la date de la présidentielle, souligne El Universal, mais cet appel est resté lettre morte. De son côté, le quotidien La Verdad conclut « La dictature a sciemment fait capoter les négociations afin de pouvoir se tailler une élection présidentielle sur mesure. »
Et pendant ce temps, Nicolas Maduro a lancé hier un nouveau mouvement politique, Stéphanie.
Et à en croire le président, Somos Venezuela, nous sommes le Venezuela, n'est pas un parti politique, mais un mouvement socio-culturel qui vise, selon ses dires, à rassembler tous les courants sociaux du pays afin de démocratiser encore davantage la société vénézuélienne et la rendre plus participative, rapporte le quotidien Correo del Orinoco.
Et il n'empêche, ce mouvement socio-culturel aura bien sa place sur les bulletins de vote.
Oui, puisque, comme le constate amèrement El Nacional aujourd'hui, le CNE a approuvé hier en un temps record l'inscription de Somos Venezuela à la prochaine élection présidentielle, tout en excluant du scrutin la coalition de la MUD et l'un de ses plus emblématiques partis membres, Primero Justicia. Voilà que plus rien ne semble faire obstacle à la réélection de Nicolas Maduro, écrit le journal. Et ce, parmi les traditionnels électeurs chavistes et qui pourraient être tentés de s'abstenir, voire même de voter pour l'opposition, seront désormais surveillés de près par les membres de Somos Venezuela, qui, pour El Nacional, n'est rien d'autre qu'une organisation parapolicière dont les membres sont chargés d'espionner les sympathisants chavistes.
Et face à cette crise politique, à la crise économique qui perdure, des Vénézuéliens partent par dizaines de milliers et beaucoup vont chercher refuge en Colombie. Alors l'Assemblée nationale vénézuélienne a conclu la semaine dernière un accord pour solliciter la mise en place d'un couloir humanitaire, notamment à la frontière. Une députée de l'opposition, Gaby Arellano, est allée en début de semaine remettre cette requête à l'ambassade colombienne à Caracas. Elle a demandé par la même occasion à ce que le président colombien, Juan Manuel Santos, rencontre une délégation de l'Assemblée nationale. Romain Lemaresquier est avec nous pour en parler. Romain, ce rendez-vous devrait se tenir aujourd'hui.
Oui, puisque Juan Manuel Santos, le président colombien, se rend aujourd'hui à Cúcuta, ville frontalière avec le Venezuela, où il devrait donc rencontrer ses députés. Alors, que compte-t-il lui demander? C'est la question que j'ai posée à Gaby Arellano, qui est députée de l'opposition et dirigeante du parti Voluntad Popular.
Nous souhaitons que soient activés les protocoles établis par les Nations Unies, ce qui implique de remplir certaines conditions. Tout d'abord, il faut qu'il s'agisse de déplacements forcés, ce qui est le cas aujourd'hui au Venezuela. Il faut constater un état de malnutrition élevé, ce qui est le cas. Il faut également un indice élevé d'insécurité, ce qui est aussi le cas. Par ailleurs, mettre en place ces couloirs humanitaires dépend aussi de la volonté des pays frontaliers, en l'occurrence le Brésil et la Colombie. Il faut que leurs dirigeants leur gouvernement en fasse la demande auprès des Nations Unies parce que ces déplacements forcés vont avoir des conséquences pour ces pays. C'est déjà le cas en Colombie, par exemple, dans le nord, dans le département de Santander, où des milliers et des milliers de Vénézuéliens entrent chaque jour en marchant à la recherche d'aliments et de médicaments. Ils dorment dans les rues. L'administration colombienne apporte une première aide, mais les hôpitaux commencent à être saturés, les rues également, et pas seulement au niveau de la frontière, mais également dans les principales villes.
Alors, pour bien comprendre l'urgence de la situation, il faut prendre la pleine mesure de ce qui se passe à la frontière avec la Colombie. Les chiffres de Vénézuéliens qui quittent le pays sont en constante augmentation, comme l'explique Gaby Arellano.
En coordination avec les offices de l'immigration colombien et brésilien, nous calculons, par exemple, concernant la Colombie, que dans les 6 derniers mois, 1,5 million de Vénézuéliens ont demandé la carte de mobilité à la frontière que l'État colombien exige pour entrer dans le pays. Ces 2 derniers mois particulièrement, c'est-à-dire en décembre et en janvier, les demandes pour obtenir cette carte ont été multipliées par presque 3 au mois de septembre. On estimait qu'entre 35 000 les 45 000 Vénézuéliens passaient quotidiennement cette frontière. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 70 et 75 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours. J'ai pu vérifier par moi-même, en me rendant sur place, à quel point des masses de gens quittent le pays entre 6 heures du matin et 19 heures. Des milliers et des milliers de Vénézuéliens, certains pour rejoindre la Colombie, d'autres pour rejoindre d'autres pays du continent ou d'autres endroits dans le monde, s'ils ont des proches ou des amis.
Alors, il y a également un autre facteur qui incite les députés de l'opposition vénézuélienne à réclamer la mise en place d'un couloir humanitaire. Il s'agit de l'insécurité qui règne à la frontière côté vénézuélien, une frontière qui n'est même plus contrôlée directement par les autorités du pays, selon Gaby Arellano.
Depuis la fermeture de la frontière avec la Colombie le 19 août 2015, ce sont les mafias et les délinquants qui règnent dans cette zone. Depuis le milieu de l'année 2017, la présence de groupes illégaux a augmenté à la fois à la frontière avec la Colombie, mais également à la frontière avec le Brésil. Les homicides ont augmenté, les organes de contrôle à la frontière sont de moins en moins efficaces. Et ces dernières semaines, le président Nicolas Maduro a nommé Freddy Bernal, protecteur de la frontière, un citoyen qui est connu au Venezuela comme le chef des groupes paramilitaires qu'on appelle ici des colectivos. Il s'agit d'indices clairs que la présidence impose à travers les armes, la peur et la faim pour soumettre le peuple vénézuélien.
Alors, Gaby Arellano fera partie de la délégation de l'Assemblée nationale vénézuélienne qui doit rencontrer tout à l'heure le président colombien Juan Manuel Santos. La Colombie, qui vient en aide depuis des mois déjà aux Vénézuéliens qui fuient leur pays, doit solliciter la mise en place de ces couloirs humanitaires, comme nous l'explique Gaby Arellano, sans quoi ces migrants risquent à terme de ne plus être pris en charge.
C'est vrai que le gouvernement de Juan Manuel Santos a mis en place des politiques pour porter assistance à ces milliers de Vénézuéliens qui arrivent dans son pays, mais il est également vrai que cela engendre des problèmes en termes de dépenses publiques et dans les services de base de l'État colombien. Nous savons que les chiffres vont continuer à augmenter jour après jour, et ce que nous voulons éviter, c'est que cela se transforme en un problème pour les Colombiens. C'est pour ça que nous devons utiliser les conventions internationales et que nous devons activer les protocoles de l'ONU pour porter assistance aux milliers de compatriotes qui fuient une tragédie imposée par Nicolas Maduro.
qu'impone en Venezuela Nicolás Maduro.
La Colombie, tout comme les députés de l'Assemblée vénézuélienne, souhaite la mise en place de camps pour ses réfugiés. Elle doit désormais en faire la demande officielle au HCR et c'est pour cette raison que les députés vénézuéliens souhaitent rencontrer Juan Manuel Santos. Si la demande est faite, la grande question qui se pose, c'est comment l'ONU pourra gérer cet épineux dossier avec des autorités vénézuéliennes qui font la sourde oreille aux instances internationales et qui refusent d'admettre l'existence d'une crise humanitaire sur son territoire.
Merci Romain Lemaresquier. Sur ce dernier point que vous évoquiez à l'instant, le numéro 2 du Parti Socialiste Vénézuélien s'est justement exprimé hier, Stéphanie Schiller.
Tout à fait, Diosdado Cabello a rejeté catégoriquement toute idée d'ouverture d'un canal humanitaire, car accepter l'aide humanitaire sera permettre une intervention étrangère sur le sol vénézuélien. L'homme fort du chavisme a de nouveau fustigé une, je cite, « campagne internationale de désinformation pour faire croire que le Venezuela vit une crise humanitaire », rapporte aujourd'hui Tal Cual.
Et puis, on vient d'apprendre au sujet du Venezuela que la Cour pénale internationale a commencé à des examens préliminaires sur des soupçons de crimes contre l'humanité. Mais revenons un instant en Colombie, Stéphanie, où la guérilla de l'ELN a annoncé pour le week-end prochain une grève armée.
Dans tous les territoires où elle opère, l'ELN exige une paralysie des transports et de toute autre activité de samedi à lundi prochain inclus, explique El Colombiano, qui souligne que la guérilla veut ainsi forcer le gouvernement à retourner à la table des négociations. Des négociations, souvenez-vous, suspendues par le président Juan Manuel Santos après des attaques meurtrières commises par l'ELN.
Et comment a réagi le gouvernement colombien ?
Eh bien, cette annonce a été rejetée, bien sûr, avec fermeté par le ministre de la Défense, note El Tiempo. Menacer l'État, le gouvernement et surtout la population civile de violence est inacceptable, a déclaré Juan Carlos Villegas. Cette grève armée est en contradiction totale avec la supposée volonté de l'ELN de chercher la paix.
Merci Stéphanie Schuller pour votre revue de presse. Et puis, en bref, aux États-Unis, sénateurs républicains et démocrates se sont mis d'accord sur un projet de budget qui couvre les dépenses fédérales pendant les 2 ans à venir. Il ouvre la voie à une forte augmentation des dépenses publiques, mais la question de l'immigration a finalement été remise à plus tard. Ce projet doit encore être validé par la Chambre des représentants.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Port-au-Prince qui se prépare au carnaval, on en parle avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour.
Franz, comment s'annoncent les festivités ?
Le carnaval avance à grands pas. Le comité organisateur a publié mercredi la liste des groupes autorisés à prendre part au défilé officiel à Port-au-Prince. Montés sur des semi-remorques tractés par des camions, une vingtaine de groupes musicaux vont faire la guerre des slogans à coups de décibels pour attirer le public pendant les 3 jours gras. Particularité du carnaval de Port-au-Prince, la fête se passe littéralement dans la rue, pendant tout le parcours de plusieurs kilomètres, avec des milliers de carnavaleux collés littéralement les uns aux autres et aux camions du groupe musical de leur choix. On danse et on chante aussi pendant des heures et des heures. Épuisés, les fêtards recommenceront le lendemain, de dimanche au mardi gras jusqu'aux petites heures du matin. Le 14 février, mercredi décembre, est déclaré férié par le gouvernement.
Et France, pour participer, comment fait-on ?
Le carnaval, à la différence de la Noël ou des autres festivités, ne coûte rien aux participants qui n'ont même pas l'obligation de se déguiser pour y participer. On n'a qu'à se rendre au centre-ville de Port-au-Prince ou de certaines villes de province pour danser pendant des heures. La facture des bandes déguisées, des groupes à pied, des chars allégoriques et des chars musicaux est prise en charge par l'État haïtien et par des entreprises privées. Les plus aisés assistent au carnaval depuis des stands, espèce d'estrade surélevée qui offre le spectacle et le son sans subir les remous de la foule. Sinon, chacun mange et boit selon sa bourse. Pendant 3 jours, pour Port-au-Prince par exemple, tout se passe autour du défilé. Il n'y a dans la ville ni bal payant, ni aucune sorte de ticket d'entrée pour les participants au carnaval.
Et à Port-au-Prince, France, il n'y a pas que les chars du carnaval qui arrivent. Le président Jovenel Moïse a profité de son premier anniversaire à la tête d'Haïti pour lancer son projet phare dans la capitale, la caravane du changement.
Pas seulement. Le président de la République Jovenel Moïse a procédé mercredi 7 février à la remise de tracteurs, de camions et de camions à benne compressive à des mairies de la région métropolitaine et à la direction départementale de l'Ouest du ministère des Travaux publics. La cérémonie du jour a marqué le lancement de la caravane du changement dans le département de l'Ouest. La caravane aura pour tâche essentiellement de construire des routes dans toutes les villes du plus peuplé des départements géographiques du pays. Le président Moïse a profité de l'occasion pour faire défiler le corps de génie militaire des FADH, les anciennes forces armées d'Haïti. La parade a commencé du local du ministère de la Culture qui relogera bientôt le quartier général des forces armées d'Haïti pour aboutir sur l'avenue de la République devant le palais national.
Et certains, France, y voient tout un symbole.
Il y a 32 ans, les forces armées d'Haïti héritaient du pouvoir au départ du président à vie Jean-Claude Duvalier. Ce 7 février 2018 a marqué le retour des forces armées d'Haïti dans la capitale haïtienne. L'armée va même bientôt reprendre au ministère de la Culture son local. Le haut état-major de l'armée, nouvelle comme l'ancienne, sera logé en face du palais national en plein cœur du Champ de Mars, comme au temps des généraux putschistes qui ont conduit l'armée à sa perte en 1994. Pour bien comprendre le changement, depuis le démantèlement de l'armée, le quartier général de la police nationale d'Haïti a toujours été situé loin du centre-ville et loin des pouvoirs politiques.
Merci France Duval et bonne fête de carnaval donc ce week-end. Tout de suite, l'actualité ultramarine. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Pauline.
Benoît, après avoir touché la Martinique, les algues sargasses se rapprochent désormais des côtes de la Guadeloupe.
Oui, une arrivée massive d'algues brunes prévue dans les prochains jours sur la côte sud de la Grande Terre, plus connue là-bas sous le nom de Riviera du Levant, autrement dit, et entre autres les communes du Gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François, communes visitées hier par la mission Sargasse mise en place par la préfecture. Reportage Steve Prudent.
Elles sont visibles sur les images satellites. Les algues brunes, les fameuses algues sargasses, devraient atteindre nos rivages dans quelques jours et de façon massive. La mission Sargasse, commanditée par le préfet, était donc à pied d'œuvre ce mercredi sur le territoire de la Carle, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Une intercommunalité qui a déjà prévu des moyens avec un prestataire privé et la mobilisation de brigades sargasses. Mais cela risque de ne pas être suffisant. Le président de la communauté d'agglomération Riviera du Levant, Jean-Pierre Dupont.
Aujourd'hui, on nous annonce une enveloppe de 500 000 euros. J'étais déjà très content, je pensais que c'était pour la Carle, mais il se trouve que c'est pour toute la Guadeloupe. Donc, ce qui veut dire que c'est très très peu.
Du côté de l'État, cette dotation est estimée suffisante pour l'instant. Le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, Jean-Michel Jumez.
C'est une première dotation, 500 000 euros, c'est une somme qui n'est pas négligeable. Pour des équipements en matériel, c'est une première dotation qui est conforme à ce que les communes ont en attente.
Les sommes engagées par l'État lors de la crise précédente avoisinaient les 4 millions d'euros sur l'ensemble du département. Les services préfectoraux indiquent qu'il reviendra aux communes et aux communautés d'agglomération de faire remonter, dans les règles, leurs besoins supplémentaires.
Une question maintenant. Où en est le cyclotron de la Martinique? La question se pose lorsqu'on sait que celui de la Guadeloupe sera opérationnel dans 3 mois. Eh bien, le cyclotron, cet équipement sophistiqué servant à la détection des cancers, le cyclotron de la Martinique entrera en service en janvier 2019. Et il ne fera pas double emploi avec celui de l'île sœur. C'est en tout cas l'opinion de Francis Carole, membre du conseil exécutif de la CTM, la collectivité territoriale de la Martinique. Il est au micro de Jean-Marc Parti.
Non, pas du tout, parce qu'il ne s'agit pas du tout du même cyclotron. Je pense qu'il est important d'insister sur cet aspect des choses. Le cyclotron de la Martinique est un cyclotron d'une certaine dimension, présentant toutes les caractéristiques de sécurité. Le cyclotron de Guadeloupe, c'est un autre type de cyclotron, plus petit. Donc, et par conséquent, je pense qu'il faut tenir compte de cela. Et évidemment, il y a eu des retards qui ne sont pas dus à 2016. Hein. Bon. Mais il ne s'agit pas non plus de mettre en cause qui que soit. Ce qui est important, c'est que la machine est en marche et que nous espérons que s'il n'y a pas de péripéties non prévues, en janvier 2019, le cyclotron de la Martinique sera bel et bien présent.
Bon après-midi, Pauline. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. C'était le journal de la première. Et puis avant de se quitter, un détour par San Francisco. Le réseau social Twitter annonce avoir dégagé au quatrième trimestre 2017 son premier bénéfice net. Il se monte à un peu plus de 91 millions de dollars sur l'ensemble de 2017. La société à l'oiseau bleu est restée déficitaire avec une perte nette d'un peu plus de 108 millions de dollars. Perte néanmoins fortement réduite par rapport à 2016. On arrive à la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jonathan Brady de l'avoir réalisé. On se retrouve demain, même heure, à partir de 14h10, heure de Paris, 8h10 à Port-au-Prince. RFI.
Rafi Talent présente Abou Diara. Venez découvrir Koya, l'album du bluesman malien, en concert le dimanche 11 février à 17h au musée du Quai Branly à Paris. Plus d'infos sur www.quaibranly.fr.